L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Dominique Arouet est un spécialiste des sols. Il étudie ce qui nous semble aller de soi. Le sol, c'est là où on marche, on vit, on bâtit, on cultive. Ça paraît plutôt anodin. Sauf que ça met des milliers d'années, voire plus, à se créer pour être fertile, vivant. Sauf qu'on a tendance à l'oublier. Et oublier aussi qu'un sol fertile, c'est rare au niveau planétaire. Alors, pour savoir comment mieux le prendre en compte, ce sol, et aussi parce que c'est un vrai enjeu pour atténuer les effets du changement climatique, écoutons Dominique Arouet. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes pédologue, agronome, je ne sais pas trop quoi dire, mais à l'INRA. C'est-à-dire, vous préoccupez du sol, c'est ça?
Oui, à la base, je suis agronome, et ensuite, je me suis spécialisé dans le sol. Et donc, j'étudie les sols. J'étudie et je surveille la qualité des sols.
Alors, comment d'agronome, on devient pédologue? Pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser sur l'étude des sols?
Moi, je me suis intéressé au sol pendant mes études d'agronomie. J'ai fait mon stage de troisième année sur les sols. Et puis après, je me suis rendu compte que les sols, c'était quelque chose qui était à la fois très important pour l'humanité et que c'était aussi quelque chose qui était complètement passionnant parce que il n'y a pas un sol qui est... Enfin, tous les sols sont différents les uns des autres. Et donc, c'est un sujet d'études et de recherche merveilleux. D'accord. Et donc après, il y a eu poste qui s'est ouvert à l'INRA, qui portait sur la cartographie des sols, et donc j'ai postulé, et puis voilà, j'en ai fait ma vie professionnelle.
Ouais. Alors on va en reparler. Oui, vous avez une vie à côté?
Oui, j'ai une vie, oui. J'ai des filles qui sont magnifiques.
Donc on en reparlera de cette cartographie, hein. Ça a été une part importante de votre rapport à la science de la pédologie. Et alors, quand on est pédologue, ça veut dire qu'on est passionné du sol. Quel est l'intérêt de protéger les sols? Quelles sont les richesses du sol? Vous allez jusqu'à dire, vous, que les sols sont un patrimoine de l'humanité. C'est qu'ils sont vraiment sacrément importants.
Oui, ils sont très importants. Ils sont importants pour des tas de raisons, hein. La première raison, c'est qu'ils nous nourrissent. Il y a à peu près 95 à 99% de l'alimentation mondiale qui ne se ferait pas sans les sols. C'est le support en fait de notre nourriture, hein, de notre alimentation. Ils nous fournissent aussi de l'énergie, ils nous fournissent du bois, du matériau pour construire, ils nous fournissent du textile, du coton, etc. Donc c'est essentiel pour ça déjà. C'est aussi les sols qui filtrent nos eaux. Sans les sols, on aurait des eaux qui seraient complètement polluées, en particulier les eaux des nappes phréatiques.
Ça, on le sait très peu au final, que la meilleure station d'épuration, finalement, ce sont des sols qui fonctionnent bien.
La plus grande station d'épuration du monde, oui, c'est les sols, et des sols qui fonctionnent bien, des sols qui ne s'érodent pas, des sols qui ont une activité biologique qui permet de dégrader tous nos déchets.
Mais alors pourquoi on continue de faire des stations d'épuration qui concentrent tous les polluants et font un rejet unique dans une rivière ou un fleuve?
Parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement, parce que justement si on est quand on est dans une ville par exemple, on n'a plus de sol pour épurer. Et donc les eaux elles partent dans les égouts, il faut bien faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on fait des stations d'épuration.
Mais à la campagne, on a obligé beaucoup de gens à faire des systèmes...
À faire des systèmes, je dirais, d'épuration autonome. Bon, là, c'est plutôt une question de santé publique. C'est-à-dire qu'il faut quand même évacuer d'une façon ou d'une autre, comment dire, les excréments humains qui peuvent porter quelques problèmes de santé publique. Par contre, le fumier, on les pend toujours dans les champs, que je sache, le lisier aussi.
Mais il nourrit les sols, justement.
Oui, il permet à la fois de fournir des éléments nutritifs au sol, il permet de recycler en fait ce qu'on a exporté au sol. Parce que finalement, ce fumier, il vient de ce que la vache ou la brebis a mangé et qui provient lui-même du sol. Donc c'est quelque part restituer à la nature ce qu'on lui a pris. C'est comme ça qu'il faut raisonner.
Alors bon, ces sols, ils sont très importants parce qu'ils nous nourrissent, vous l'avez dit, parce qu'ils permettent le maintien de la vie sur Terre aussi, parce que c'est incroyable le nombre de micro-organismes qu'on retrouve dans une petite cuillère de terre.
Le chiffre à retenir, c'est que dans une petite cuillère de sol, finalement, il y a autant de micro-organismes qu'il y a d'humains sur la planète, et qu'on en connaît finalement encore très peu. mais qu'on sait que la plupart sont très utiles, en particulier pour biodégrader des substances qui sont indésirables.
Le but de l'INRA, donc l'Institut National pour la Recherche Agronomique, c'est aussi d'aider les agriculteurs à mieux utiliser ces sols. Enfin, vous, ça doit être votre objectif. Donc vous avez fait un état des lieux. Pour commencer, il faut bien connaître les sols. Et c'est comme ça que vous êtes... Vous avez accompli un travail assez titanesque de cartographier les sols.
Oui, pour pouvoir, pour pouvoir prendre des mesures, il faut déjà être capable de faire un diagnostic. Donc, il faut, c'est comme un médecin, quoi. Il a besoin de savoir l'état actuel pour dire ce qu'il faut faire ensuite pour l'améliorer ou pour savoir si on est vraiment en situation difficile.
Alors, comment vous avez fait ?
Alors on a fait plein de choses. On a fait, pour étudier les sols, la première chose qu'il faut faire, c'est aller faire des trous. C'est de prélever la terre, de décrire les sols, aller regarder s'ils sont bien structurés, s'ils ont de la vie biologique à l'intérieur, s'il y a des vers de terre, si ça bouge, quoi, si ça vit. Et puis ensuite, on part sur des choses qui sont beaucoup plus des techniques de laboratoire, c'est-à-dire qu'on va mesurer la matière organique, le pH, tous les polluants possibles et imaginables. Pour essayer de comprendre dans quel état sont ces sols et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on devrait faire.
Alors du coup, votre cartographie des sols de France a permis déjà de faire un peu un état des lieux, pas un instant T, parce que ça a dû vous prendre quand même quelques années de faire ça, avec une équipe derrière vous à l'INRA, mais ça vous a permis aussi de voir une certaine évolution dans la qualité des sols. Alors quel est votre constat ?
Mon constat, c'est qu'il y a des évolutions très différenciées en fait. Il n'y a pas une évolution générale de la qualité des sols en France.
Ce n'est pas si négatif ce que vous dites en fait.
Attendez, y a un premier constat, mais qui à la limite ne relève pas de la cartographie des sols, c'est qu'une des premières menaces pour les sols de France, c'est tout simplement l'urbanisation, c'est tout simplement la bétonisation du territoire. Donc il faut savoir qu'on perd à peu près... en 7 ans, l'équivalent d'un département moyen français qui disparaît sous le béton. En fait, on perd 27 mètres carrés par seconde, c'est-à-dire l'équivalent d'un grand studio parisien. Voilà. C'est énorme.
Dans le monde, du coup, ça représente combien ?
Dans le monde, on est à 20 millions d'hectares par an qui disparaissent sous le béton ou sous les infrastructures, c'est-à-dire plus que la superficie des terres cultivées de France.
Chaque année qu'on perd ?
Chaque année, oui.
Donc ça, on les perd comment ? C'est des routes ?
C'est des autoroutes, c'est des zones commerciales, c'est des parkings de supermarchés, au hasard des aéroports, oui, dont certains sont prévus en zone humide, je ne le citerai pas. Donc on perd tout ça, et c'est énorme. Il faut savoir que par exemple en Europe, c'est pratiquement l'équivalent d'une ville de la taille de Berlin qui disparaît tous les ans.
C'est énorme. Donc ça, c'est un constat. La plus grande menace, l'artificialisation. Mais pas que, il y a aussi les pollutions. Vous avez regardé aussi...
Oui, alors, si on reste au niveau de l'Europe et de la France, bon, je pense réellement que la principale menace, c'est l'urbanisation. La deuxième, c'est probablement l'érosion. Il faut savoir qu'on perd des quantités énormes de sol chaque année.
Alors, comment ça marche ? Pourquoi on perd ces quantités de sol ?
On les perd à la fois pour des raisons d'ordre climatique, ou d'ordre, je dirais, naturel. La pente des sols, l'augmentation de la fréquence des pluies extrêmes, des orages, si vous voulez.
Donc, ça ruisselle,
le sol se désagrège sous l'effet de la pluie, il ruisselle et puis il part dans les fleuves, dans les rivières, ou voire dans les villages. Enfin, il peut même provoquer parfois des événements catastrophiques comme des coulées de boue. C'est des choses qui sont, je dirais, contre lesquelles on ne peut pas grand-chose. Par contre, on sait comment quand même aménager nos sols et nos paysages pour lutter contre ça. On sait qu'il faut éviter de laisser le sol nu, par exemple, pour le protéger de l'impact des gouttes de pluie. On sait qu'il faudrait de préférence remettre réinstaller des fossés, en fait. Construire des barrages un peu à ce ruissellement pour éviter qu'il se concentre, qu'il forme des ravines et qu'ensuite tout ça parte dans nos rivières et jusqu'aux océans.
Ouais, enfin, pas les gros barrages, des petits barrages naturels plantés.
Oui, je ne parle pas de gros barrages, je dis de comment ça, des obstacles au ruissellement et à l'écoulement, à la concentration du ruissellement en fait. Donc des haies, des fossés, des choses comme ça.
Et alors, un sol qui fonctionne bien, c'est un sol notamment qui est plein de vers de terre, avec des micro-galeries, un sol qui sait aussi faire s'infiltrer finalement l'eau dans les sols et bien la conserver. Et ça, là, il y a énormément de choses à faire, notamment sur les pratiques culturales, sur l'agriculture.
Oui, si on veut un sol qui fonctionne bien, il faut déjà maintenir un niveau d'activité biologique satisfaisant, donc des vers de terre, des micro-organismes. Il faut qu'il soit riche en matière organique. Pour qu'il soit riche en matière organique, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit pratiquement couvert tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne le laisse pas nu. Et en faisant ça, on évite aussi de l'érosion. Et un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui est capable aussi de filtrer nos eaux et de les stocker aussi pour pouvoir les restituer ensuite aux végétaux en cas de période de sécheresse.
Et il faut qu'on se rende compte en fait qu'en France et en Europe, vous avez montré une cartographie du monde, enfin des sols du monde, et on voit bien que finalement, quand on entend la France, le grenier de l'Europe, etc., mais en fait, l'Europe et la France, on a, surtout en France, sans vouloir se vanter, un sol d'une richesse extrême. Donc on a d'autant plus de responsabilités à le conserver, sachant que c'est tout là l'importance de cette conservation. C'est une ressource presque non renouvelable, en tout cas qui met énormément de temps à se renouveler, l'humus du sol et le sol en général.
Ben oui, le sol met des dizaines de milliers d'années à se former, parfois plus, et on peut le perdre en quelques années. Donc c'est pas renouvelable, je dirais, à l'échelle de temps humaine. Donc il faut absolument arriver à le conserver. Et c'est vrai que vous avez raison quand vous dites que les sols de France, mais même plus généralement les sols d'Europe, sont parmi les meilleurs sols du monde. On est un des greniers à blé des sols du monde, avec le Middle West américain. Et donc, massacrer ces sols, quelque part, c'est perdre un patrimoine de l'humanité.
Oui. Et puis, c'est compromettre nos conditions de vie, parce qu'il va bien falloir qu'on continue à s'alimenter, et d'autant plus si on continue à s'accroître en nombre, en population.
Oui, il va falloir continuer à s'alimenter. Après, la question, je dirais, ce qui est important, si on raisonne au niveau vraiment global, c'est que si on détruit des sols qui sont très productifs, il va falloir aller en prendre 10 fois plus de surface ailleurs dans le monde pour produire la même chose. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller, par exemple, déforester l'Amazonie ou l'Indonésie ou le Congo. Et c'est des choses qu'on ne veut pas, parce qu'on veut aussi conserver de la biodiversité.
Thank you. Retour avec Dominique Arouet, spécialiste des sols.
Alors en fait, on est souvent aussi sur une sorte d'idéologie, on se dit « Ah mais si on perd de la fertilité des sols, c'est pas grave, regardez ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, la Révolution verte, on n'a qu'à mettre plus d'intrants, les fameux NPK, finalement les intrants c'est les engrais chimiques ». Qui réglerait tout. Au final, une certaine technologie. Par exemple, aussi, on peut dire, ah, mais grâce aux OGM, on aura peut-être besoin de moins d'eau, on va modifier génétiquement certaines plantes pour avoir plus de rendement. Est-ce que vous pensez, Dominique Arouet, en tant qu'agronome et pédologue à l'INRA, qu'on peut régler le problème des sols par la technologie, par les nouvelles avancées techniques ?
Je pense qu'on peut, je pense qu'on est allé trop loin déjà dans les apports d'intrants, dans ce que vous appelez NPK, donc azote, phosphore, potassium. On a cru à un moment qu'on maîtrisait tout. Et puis on est arrivé à un certain plafonnement des rendements. Les engrais maintenant coûtent de plus en plus cher, sont de plus en plus difficiles à se procurer quelque part.
Alors pourquoi ? C'est parce que justement aussi peut-être qu'on les a épuisés les mines de phosphore, etc.
Là, on a des sources qui sont effectivement en train de s'épuiser. On sait que les phosphates vont coûter de plus en plus cher. Les projections disent épuisement entre un siècle et trois siècles. Mais quel que soit le véritable épuisement, ce qu'on sait c'est que de toute façon il faudra le chercher toujours plus profond et donc il coûtera toujours de plus en plus cher. À la limite c'est pas une mauvaise chose parce que ça nous oblige à mieux raisonner ce qu'on apporte. Avant, on en mettait plein, c'était une forme d'assurance. Maintenant, on a des raisonnements qui nous permettent de mieux calculer exactement ce qu'il faut pour éviter de contaminer ou d'eutrophiser, excusez-moi pour le jargon, nos rivières ou nos lacs.
Donc là, oui, l'apport de la science a été bénéfique.
Je pense que l'apport de la science a été très bénéfique sur tout ce qui est raisonnement de la fertilisation. Après, le problème de la fertilisation, il se place au niveau mondial. Et là, c'est vraiment un autre problème. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut dire que nous, en tout cas les pays du Nord, on va dire, pour simplifier, en mettaient trop, on importait trop. Et donc, ça a causé des problèmes environnementaux. Mais à l'inverse, les pays très pauvres, eux, ils n'ont pas les moyens d'en mettre. Et il faudrait qu'ils en mettent au moins un tout petit peu pour arriver à maintenir une certaine production. Et là, il y a un vrai problème de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils font ce que j'appelle l'agriculture minière, c'est-à-dire qu'ils plantent ou ils sèment, et puis ils laissent pousser, ils ne ramènent jamais à rien. Et donc, au bout d'un moment, le sol est épuisé. Et donc, c'est une espèce de spirale de la pauvreté, parce que l'agriculteur africain... Il faut savoir qu'en Afrique, les engrais coûtent extrêmement cher, 3 à 4 fois plus cher qu'en Europe. Et donc, l'agriculteur africain qui n'a pas les moyens d'en mettre... Eh bien, il va y avoir des rendements qui vont baisser chaque année. Il va y avoir de moins en moins de moyens, donc ils vont en mettre de moins en moins. Et donc c'est une spirale de la pauvreté.
Et alors pourquoi agriculture minière ? Ça veut dire que vous parlez là du lien entre la terre et la roche ?
Non, quand je dis minière, c'est dire... Comment on veut dire ça ? C'est-à-dire qu'on exploite un milieu naturel, comme on exploiterait une mine. C'est-à-dire qu'on prend ce qui existe. Par exemple, on fait ce qu'on appelle de la culture sur brûlis, donc on va défricher une partie de forêt, et ensuite on va cultiver pendant 5-6 ans, tant qu'il y a encore un peu d'éléments nutritifs, mais comme on n'apporte rien en retour, au bout d'un moment, le sol il est épuisé. Alors ça fonctionnait très bien quand on n'était pas très très nombreux sur la planète, l'agriculture sur brûlis. Les gens, ils défrichaient un hectare par là, ils cultivaient, ensuite ils laissaient en jachère ou ils laissaient repousser la forêt pendant 30 ou 50 ans. Mais maintenant, vu le nombre qu'on est, on n'a pas le temps d'attendre 30 ou 50 ans pour que le sol se refasse. Donc il faut trouver des solutions. Et les solutions, ça passe soit par un petit peu d'engrais, mais de façon très raisonnée, soit aussi par des apports, par du recyclage en fait, par du compostage, par du recyclage des boues urbaines, etc. Quoi. C'est-à-dire il faut qu'on recycle tous nos déchets.
D'accord. Et nos déchets, ce sont notamment nos excréments, pas que ceux des animaux.
Oui, ce sont nos excréments, c'est aussi, c'est pas nos pelures de pommes de terre, nos pelures de pommes ou de je ne sais quoi, enfin tout ce qui est biodégradable.
Donc ça c'est une solution très concrète que vous donnez à tous les auditeurs pour nourrir leur sol chez eux, s'ils ont un jardin potager ou un jardin tout court. Il y a des choses par exemple qui sont d'une aberration, quand on tond sa pelouse, qu'est-ce qu'on fait de tout ce gazon? On va le porter à la déchetterie, c'est une bonne solution ça?
Certainement pas, on va pas le porter à la déchetterie. Et en fait il y a deux solutions, soit on le tond de façon pas très fréquente, c'est-à-dire qu'on attend qu'il ait suffisamment poussé. À ce moment-là, les bonnes solutions, il y en a plusieurs, hein. Soit c'est de le composter, soit c'est de le laisser sécher, de s'en servir comme paillage auprès des, autour des arbres fruitiers, par exemple, ou autour des fraisiers, etc., pour limiter l'évaporation du sol. Et puis, par contre, on tond assez fréquemment et qu'on a peu de résidus de tonte, bah, la meilleure solution, c'est de les laisser là où ils sont.
Finalement, la nature fait bien les choses.
Oui.
Alors, Dominique Arouès, avec vous, donc, on va aborder un nouveau sujet qui est dans la continuité donc, de votre travail sur les sols à l'INRA. C'est ce rôle incroyable que peuvent jouer les sols dans le dérèglement ou le re-règlement climatique, enfin, sur la question du changement climatique. C'est quelque chose d'assez énorme sur lequel vous avez travaillé et éveillé un peu le monde scientifique et l'opinion publique en général, notamment sur la question du stockage des gaz à effet de serre dans les sols. Alors, comment vous avez travaillé là-dessus? Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre comme message?
J'ai peut-être quelques chiffres à vous donner. Il y a à peu près 2400 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et le CO2, tout le monde sait que c'est un puissant gaz à effet de serre. Là, il y a aussi du N2O, etc., et du méthane. Et il y en a 3 à 4 fois plus que ce qu'il y a dans la végétation ou dans l'atmosphère. Okay.
Il y en a plus dans le sol que stocké, par exemple, dans les forêts?
Oui, bien sûr, oui. 2 à 3 fois plus, oui. Et que ce qui est dans l'atmosphère également. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce carbone qui est stocké dans les sols, en fait, il provient du CO2 atmosphérique. Il provient du gaz carbonique atmosphérique qui a été capté par les végétaux pour faire leur photosynthèse, hein, pour croître. Et ensuite, ces végétaux, bah, un jour ou l'autre, ils vont mourir ou ils vont restituer des pailles, des choses comme ça. Et donc ce carbone, ensuite, il va être stocké dans le sol pour une durée qui est plus ou moins longue. Et donc, c'est quelque part du carbone qui vient de l'atmosphère. Donc, plus on va en stocker, plus on va en accumuler dans nos sols, et plus on va faire baisser les teneurs en CO2 atmosphérique, et donc plus on va arriver à mieux lutter contre l'effet de serre.
Alors, comment on s'y prend? Justement, alors là, vous êtes vraiment en lien avec des agriculteurs ou vous faites plus de la recherche fondamentale? Comment ça marche?
Je ne suis pas vraiment en lien direct avec des agriculteurs. Il y a des relais pour ça. Il y a des champs d'agriculture, il y a des instituts techniques. Moi, mon travail, c'est d'abord, comme toujours, de faire un état des lieux, de dire, voilà, où est-ce qu'il y a beaucoup de carbone, où est-ce qu'il n'y en a pas. Ensuite, de dire quel est le potentiel de stockage, jusqu'à combien je pourrais arriver. Et en utilisant quelles techniques? Et bon, les techniques, on les connaît, bon, mais en gros, c'est maintenir une production de biomasse permanente, c'est couvrir le sol en permanence, c'est éviter qu'il s'érode, c'est recycler des matières organiques, c'est utiliser le compostage, utiliser tous les résidus organiques qu'on peut pour essayer de maintenir ce stock de matières organiques, c'est diminuer l'intensité, la fréquence du travail du sol. C'est utiliser des techniques de type agroforesterie. Enfin, on a tout un panel en fait, de techniques qui sont à notre disposition. On sait, à peu près ce qu'elles peuvent apporter. Après, ce qu'il nous faut, et ça c'est mon boulot, c'est une cartographie précise des sols et de leurs propriétés pour dire aux gens, à tel endroit, voilà, je vous conseille de faire plutôt ça, à tel autre, ça sera plus intéressant de faire ceci. Parce que aucun sol n'est pareil. Et donc les techniques ne sont pas équivalentes selon le type de sol sur lequel vous êtes.
D'accord. Et est-ce qu'on peut, comme ça, avoir une image un peu de ce que ça donnerait en France? Est-ce qu'il y a des grandes zones quand même, un peu différenciées, suivant que ce soit des zones de montagne, suivant la nature du sol ou...
Quand on regarde une carte du carbone dans les sols de France, ce qu'on voit d'abord, c'est un effet climatique. C'est-à-dire qu'il y a plus de carbone dans les sols de montagne, qui sont plus froids. Il y a un gradient aussi nord-sud, il y a moins de carbone en Midi-Pyrénées qu'il n'y en a en Lorraine, par exemple. Après, on voit des effets de type d'usage, c'est-à-dire on a beaucoup plus de matière organique ou de carbone dans les sous-prairies ou sous-forêts que sous culture, pour des raisons principalement de travail du sol. Hein. Et ensuite, on on est capable de dire dans quelle région, finalement, on aurait le meilleur potentiel pour stocker du carbone.
Alors, dans quelle région ?
Je dirais dans le sud-ouest de la France. Il y a un potentiel qui est énorme. Les terres noires, ou alors ce qu'on appelle localement ici les sols de Touya, du Piémont pyrénéen, ont perdu en 35 ans pratiquement la moitié de leur teneur en matière organique. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de remonter ça, quoi, de revenir au niveau où ils étaient quand ils étaient encore sous fougère ou sous lande, etc.
Malgré le fait de ce que vous venez de dire, que plus on est au nord, plus les sols sont frais et plus ils ont de capacité de stockage.
Oui.
Au final, malgré le fait qu'il y aurait le changement climatique, le réchauffement climatique, on pourrait quand même stocker plus de carbone dans les sols ?
Je pense que oui. Enfin, je pense en France, en tout cas, oui. En France, c'est certain. Et ici, si on se replace dans le contexte du sud-ouest, ou en particulier du Piémont pyrénéen ou des Pyrénées-Atlantiques, ok, il fait plus chaud que dans le nord, mais par contre, il y a un potentiel de production qui est énorme par rapport à ce qui se passe dans le nord, et donc il y a un potentiel de retour de matière organique au sol qui est très important.
Vous égrenez un peu avec vos idées, vous échangez certainement avec vos homologues à travers le monde, mais alors, quelle est la réception politique de vos préconisations scientifiques pour stocker ces gaz à effet de serre dans le sol ?
Alors la première réception politique, elle s'est passée, une des premières, elle s'est passée lors de la dernière COP21 à Paris, où notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a lancé un grand programme international qui s'appelle 4 pour 1000, et qui part du principe que si on arrivait à augmenter ne serait-ce que de 4 pour 1000 en relatif par an, le stockage de carbone dans les sols, en fait on compenserait l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ce programme-là, il a été signé par une cinquantaine de pays et à peu près 100 ou 120 organisations nationales ou de recherche ou organisations internationales type ONU, FAO, etc. Et donc on est parti là-dessus. Donc il y a vraiment une prise de conscience politique maintenant de l'importance de ça.
Donc finalement une victoire pour vous et vos équipes.
Je ne sais pas si c'est une victoire, c'est un pas en avant.
Donc on peut être un peu optimiste.
On va essayer de l'être. Disons que c'est toujours important quand on est relayé par une réelle action politique, et quand on ne reste pas juste confiné dans le monde de la recherche. On peut publier tout ce qu'on veut dans des grands journaux internationaux, etc. Mais ce n'est pas en publiant dans Nature qu'on agit. On agit localement. Et on agit par des mesures concrètes, politiques, par des incitations, voilà, et localement.
Merci.
De rien.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.